Campos Bordeaux, 88.1.
Campus Bordeaux, 88.1.
Il est 12h57, 12h58, on va rejoindre Nicolas pour les news. Bonjour Nicolas.
Bonjour Guillaume. Alors, on va commencer avec les grèves. Oui, c'est la grève aujourd'hui dans l'éducation nationale. Les syndicats du public et du...
C'est branché, c'est bon.
Mais je sais pas, attends.
Ouais. Je vois pas les... Ouais, on est bon, vas-y.
Mais quoi, vas-y?
Parle, on est dessus.
Mais non, mais c'est toi qui parles.
J'ai pas la feuille. Où t'as mis la feuille?
Mais je te l'ai donnée. Et tiens, t'es qu'un bouffon.
Dis pas mon nom. Débranche.
Nous, à l'université révolutionnaire indignée non engagée, nous proclamons l'avènement d'une université libérée, gratuite, non identitaire, post-exclusive et non anti-écologiste.
Attends, il y a...
Chut. C'est un avertissement que nous lançons à la face de l'élite dirigeante du campus de Bordeaux. Nous ne reculerons devant rien pour obtenir la victoire de notre mouvement.
Et je... Au fait...
Quoi ?
T'étais pas branché.
Je vais reprendre. Hein. Oui, donc la révolution est en marche.
On nous
est
arrivé.
La révolution arrive sur ton campus. Écarte ton anus.
Campus Bordeaux.
88,1.
Campus Bordeaux,
88,1.
Rapidement, je voulais donner la parole à Olivia pour que tu puisses... un peu parler du fruit de votre collaboration, de la manière dont vous êtes inscrit dans le thème du chantier mobile et qu'est-ce que ça fait d'improviser comme ça presque 30 minutes en direct sur une radio alors qu'apparemment on l'a jamais fait.
Comment on a participé au chantier Evento? C'est à travers le BDA de Sciences Po Bordeaux qui nous a intégrés au projet. Ensuite on était aussi avec la radio du BDA aussi et au final voilà, on a fait le projet ensemble. Ensuite, en ce qui concerne comment c'était, on a rassemblé les forces vives qui étaient au départ pas faciles à motiver, mais qui se sont révélées des très bons acteurs. Voilà, donc c'était un exercice complètement nouveau que moi non plus j'avais pas fait et que aucun d'entre nous n'avait fait. Il y en avait certains qui n'avaient même jamais fait d'impro et pour qui ça a été une grande première. Et sinon, c'était très, très enrichissant et très intéressant de faire de la radio, en fait, pour la première fois.
Sinon, il y a Michelangelo Pistoletto, qui est le grand chef d'Evento, qui parle, lui, de réévolution. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, après la révolution qu'on vient d'entendre, la réévolution?
L'évolution divisée par deux.
Ça, c'est super.
Aujourd'hui, un message révolutionnaire un peu spécial, puisque nous avons un invité, un précurseur de la vague contestataire qui a envahi l'Europe, un indignados de las calles de Madrid. Donc, Hermana Lucía, bonjour.
Pues, en primer lugar, quisiera dejar muy claro lo que llevamos diciendo desde un principio, que todo este movimiento en el cual estamos participando no está ni estará vinculado a ningún partido político, ni tiene intención de convertirse en uno nunca.
Très bien. Mais alors, Lucía, une question...
Et nos preocupa profundamente la crisis en la que estamos inmersos. Una crisis que ha sido ocasionada por los bancos y que únicamente estamos pagando nosotros. O sea, hemos tenido que pagar un rescate a los bancos. Los mismos bancos que ahora reparten dividendos millonarios entre sus directivos y que nos niegan la financiación a particulares y pymes y que nos embargan las viviendas pero nos obligan a seguir pagando las hipotecas.
Lucía, du calme, hein, de calmo, hein? No sea enervado usted. La revolución, tranquilo en Bordeaux. Hein?
Pero también el fenómeno de corrupción política.
Lucía,
siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás. Quizás,
Alors, je m'appelle Charlie, je suis assistant éditorial sur le chantier mobile des Vintaux et étudiant en 5e année à Sciences Po Bordeaux. Donc assez essoufflé au 11e arrêt, mais assez soulagé et en même temps un petit peu nostalgique en fait de quitter le chantier mobile demain.
Je m'appelle Thibaut, je suis aussi assistant éditorial sur le chantier mobile et je suis aussi étudiant en 5e année à Sciences Po Bordeaux. Moi, je vais dire que je suis assez satisfait parce qu'au final, c'était un peu un défi. Donc on a mené ce défi, c'est-à-dire aller essayer d'amener la culture peut-être en dehors du centre de Bordeaux. Après, peut-être une petite déception, c'est que on n'a peut-être pas réussi à rassembler le monde qu'on voulait atteindre, mais... Après, c'est sûr que c'était une expérience hyper enrichissante et ça nous a permis d'apprendre plein de choses, quoi.
Alors là, c'est la 11e station. Où est-ce qu'on est ?
Alors ici, on est à Talence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi sur la zone du campus. Et c'est aussi pour ça que nous, c'est intéressant qu'on vienne ici. C'est parce que la zone du campus, c'est un peu une zone à part entière. Et justement, on ne sait jamais trop si on est sur la zone d'une ville ou si on est sur la zone d'une Donc pour commencer, je vais présenter rapidement un peu cette table ronde. Donc elle s'inscrit vraiment dans la logique du chantier mobile, c'est-à-dire qu'on va sur un territoire et on essaie de questionner un peu les enjeux qui sont liés à cette zone, à cet espace. Et donc la dernière étape s'arrête sur le campus et il nous a paru nécessaire d'évoquer cette question donc de l'avenir de ce territoire, surtout en ce moment quand on parle de projet d'opération campus.
Et la première interrogation qui nous venait était le questionnement du territoire du campus, en fait, ce que ça représente en tant que territoire. Nous avons Jean-Jacques Benoît, monsieur le maire de Pessac, conseiller général du canton de Pessac 2, mais aussi vice-président de la CUB et membre de la délégation Aglo Campus. Donc on voulait avoir une petite réflexion sur ce qu'est ce territoire du campus, comment les mairies interagissent avec le campus. Est-ce que c'est un territoire à part entière ou est-ce que, monsieur le maire, vous êtes bien chez vous ici durant cette table ronde ?
Je dirais que nous sommes à la fois sur un territoire particulier et qui fait partie de la commune de Pessac. Je ne sais pas comment les autres communes de Bordeaux, de Talence, de Gradignan approchent cette question, mais nous c'est ainsi. C'est-à-dire que nous voulons à la fois penser ensemble avec l'université, bien sûr, et le plan campus en fait partie, mais également avec les autres communes, avec la communauté urbaine, avec la région. Nous voulons essayer de penser ensemble ce territoire. Il y a ici des gens qui vivent de temps en temps, c'est-à-dire le temps d'une journée. Il y a même des gens qui vivent, qui sont des étudiants, qui vivent toute la journée ou pendant plusieurs mois. Ils rentrent quelquefois chez eux le dimanche et puis ils ont des voyages entre Bordeaux, Talence, Pessac, l'université. Donc comment tout cela s'organise ? Comment tout cela peut mieux vivre ? Donc nous sommes à la fois sur un territoire particulier et en même temps que nous voulons faire nôtre.
L'approche talençaise est tout à fait similaire. Hein. C'est vrai que les années 60, 70, 80 ont vu des relations entre la ville et son campus qui étaient des relations qu'on pourrait qualifier de nécessaires. Les choses ont commencé à évoluer avec le chantier du tram. Ça a été la première action. Et puis, il y a eu, avant 2008, un autre chantier qui a concerné le lien entre la ville et l'université Bordeaux-1, qui était la réfection de l'espace du Haut-Carré et l'amorce de liens culturels entre la ville et le campus.
Je voudrais juste, par rapport aux interventions des élus, je voulais juste effectivement développer le lien du tramway qui fait que votre question territoriale que je comprends, et pour nous une vraie difficulté, parce que lorsqu'on interroge des étudiants, on s'aperçoit que cette territorialité-là, elle n'existe pas ou peu. La géographie en fait étudiante, elle est assez éloignée finalement de la géographie administrative. Je vous invite à faire l'expérience, quand vous rentrez dans le campus, regardez à quel endroit vous estimez rentrer dans le campus, et regardez aussi à quel endroit vous estimez en sortir. Vous verrez que ce ne sont pas forcément les mêmes seuils, et donc, c'est bien lié aussi à vos histoires personnelles et collectives.
Il faut se rappeler l'histoire de comment nos sociétés et les sociétés anciennes percevaient la jeunesse, et notamment l'étudiant. L'étudiant, historiquement, dans l'histoire de nos sociétés, a été perçu comme un perturbateur. Il était perturbant au Moyen-Âge, parce que sa jeunesse faisait que il ennuyait les bourgeois. Historiquement, on a vu les événements des années 60, et donc on a eu plutôt tendance à mettre les campus à l'extérieur des villes. Et aujourd'hui, on est avec une urbanisation qui a gagné, et qui de fait a encerclé peu à peu le campus universitaire. Et donc, aujourd'hui, le campus se trouve dans la ville, sans que la ville soit totalement dedans. Donc, on est dans cette contradiction où l'étudiant peut être perçu encore sur des quartiers périphériques, sinon comme dangereux, c'est une exagération, mais pouvant être perturbateur en tout cas. Perturbateur.
La révolution n'est pas une perturbation du présent, mais une préparation de l'avenir.
Quittez vos chaînes, délestez-vous du poids des conventions sociales, dégrafez le corset paternaliste qui retient vos pulsions libertaires.
Ok, ok. Reprenons, hein, dans le calme. Donc, je disais donc...
Paul.
Bon, moi, je vais offrir une autre perspective et une autre vision de ce qui vient d'être dit. Bon, déjà, par rapport à ce que vient de dire M. Benoît, vous dites que les citoyens doivent s'approprier le campus. Encore faudrait-il que les étudiants vivent sur le campus. Par vivre, j'entends pas dormir sur le campus ou suivre des cours. J'entends participer à une activité sportive, autre qu'obligatoire, participer à une activité culturelle, autre qu'imposée par les cours. Rester ici comme ça se fait aujourd'hui, moi, je ne vois jamais ça. Jamais. Pour que les citoyens de Pessac, de Talence viennent sur le campus, il faudrait qu'il y ait un minimum d'attrait au campus. Tout autour, il y a plein de vies, plein de cafés, de bars, etc. Dès qu'on passe le site universitaire, il ne se passe rien. Quand on pense au plan campus et à la nouvelle université de Bordeaux qui vient se superposer à ça, on oublie tout un tas d'étudiants qui vivent sur des sites périphériques et qui ont l'impression qu'on leur prend beaucoup de confort pour concentrer ça sur Bordeaux, faire l'excellence à Bordeaux, comme c'est un terme générique qui revient beaucoup dans les textes en ce moment. Et puis là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi, je vais vous dire, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien là-bas, mais c'est dommage. Mais bon, la ville, elle doit aussi aller à la rencontre des étudiants, et pas seulement à la rencontre des citoyens, mais les citoyens doivent aussi s'approprier le campus, mais je pense que ça va de pair. Voilà, différentes échelles qu'il faudrait concilier, l'échelle de vie, l'échelle des associations, et l'échelle administrative qui est bien plus large, puisqu'on va jusque dans les fins fonds de l'Aquitaine. Voilà, merci.
Voilà, en fait, donc, ce qui est plus ou moins reproché pour l'instant au campus, c'est un peu son manque de vie, et je crois que c'est un des axes de l'opération campus. Mais avant d'arriver dans le fond, moi, j'aimerais d'abord revenir sur... oui, monsieur Xavier.
Comme tu nous proposais d'intervenir dans le débat, je le fais volontiers. On a entendu tout à l'heure qu'on crée les campus, et pas uniquement à Bordeaux, hein, sur cette idée que les étudiants étaient potentiellement perturbateurs, qu'ils avaient une culture qui était un petit peu différente de celle des autres citoyens. Ça me frappe beaucoup parce que c'est exactement selon la même logique qu'on a créé ces ensembles HLM dans les années 60 pour y accueillir des immigrés qui étaient potentiellement perturbateurs et qui avaient une culture un petit peu différente. Et on s'est rendu compte, quelques années après, qu'on avait en réalité créé des ghettos et qu'ils posaient de considérables problèmes pour l'ensemble des citoyens. Alors est-ce qu'au fond, pour ces étudiants, y compris potentiellement perturbateurs, y compris avec un rythme ou un mode de vie un petit peu différent, la réflexion essentielle, est-ce que ça n'est pas celle de la mixité sociale et celle de l'intergénérationnel, celle d'un mélange peut-être beaucoup plus intime entre différentes catégories de la population?
Donc là, en fait, vous nous interrogez sur le modèle urbain. En fait. Votre pensée, sans doute, vous avez fortement raccourci hein, l'histoire du logement social. Donc je veux juste dire que l'histoire, c'est pas ça. On a mis des gens qui avaient besoin de logement, et puis ensuite, progressivement, pendant 30 ans, on a retiré ceux qui étaient un petit peu moins pauvres que les autres, pour les mettre dans des logements de type individuel ou d'accession à la propriété. Bref, on a paupérisé en fait des secteurs entiers en laissant d'ailleurs les collectivités se débrouiller avec. Hein, donc je juste préciser que ça n'a pas été un choix délibéré, mais c'est au bout de 30 à 40 ans d'histoire, on observe effectivement les conséquences d'une série d'actions ponctuelles hein, qui font qu'à un moment donné, on prend une direction et qu'ensuite, c'est compliqué pour revenir en arrière. Sur votre analyse et le lien qu'il y a à faire entre la construction des campus et le modèle des grands ensembles, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que contrairement aux images qu'on peut avoir sur les campus de type nord-américain, les universités françaises se sont toujours rêvées en fait, des campus nord-américains, mais sont complètement issues en fait, des modèles des grands ensembles, hein, donc, d'un point de vue urbanistique. Et les décisions donc, étaient prises d'ailleurs de construction de ces universités, plutôt au début des années 60. On a vu 68 après effectivement arriver, mais les décisions de création de ces universités étaient bien en amont. Hein, donc il n'y avait pas encore ce sentiment forcément de jeunesse mouvementée et donc de jeunesse dangereuse. La question que vous posez sur la mixité, c'est une nécessité. Après, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est est-ce que finalement tout est dans tout ? C'est-à-dire, je suis autant dans la ville que dans l'université. Ça renvoie à un modèle d'université. Par exemple, l'université de Tokyo fonctionne sur ce principe-là. C'est-à-dire que vous êtes dans la ville, vous ne voyez pas l'université, mais vous avez des spots avec des endroits où, à un moment donné, vous avez accès à la formation. Et puis, vous avez le concept nord-américain où on regroupe sur un champ, campus, ça vient de là, hein, sur un champ, l'ensemble des services nécessaires pour une communauté qui est dans la même force de l'âge. Hein, c'est ça qui change un petit peu dans les comparaisons socio-professionnelles avec d'autres tissus urbains. C'est que là, en fait, on met des gens qui, grosso modo, hein, sont de la même génération et vont grandir ensemble. Donc on est vraiment sur deux modèles urbains complètement différents. Est-ce qu'il y a un modèle français ? Aujourd'hui, non. Est-ce qu'on nous demande, au travers de l'opération Campus, l'ambition qu'on nous demande d'avoir et l'ambition que l'on doit avoir, c'est quel est le modèle finalement que l'on va créer ? Juste après, une remarque, c'est qu'en même temps qu'on va créer ce modèle-là, on va le conceptualiser. C'est-à-dire qu'on ne va pas conceptualiser puis créer. Le modèle aujourd'hui, on ne l'a pas et on doit le construire, mais on doit le construire ensemble. Comment est-ce que nos valeurs vont se rencontrer, être portées et créer finalement des espaces qui vont répondre à la fois aux étudiants, parce qu'il y a des besoins, donc on parle de vie, hein, de cadre de vie, et là c'est typiquement dans les compétences des maires, et comment à un moment donné ce cadre de vie répond aussi également donc, aux besoins des citoyens, ouvriers, ce que vous citiez, monsieur Benoît, tout à l'heure.
Qu'est-ce qui se passe ?
Non mais attendez, oh. On est en train de parler là. Guillaume, c'est quoi là ? Qu'est-ce qui se passe là ?
Qu'est-ce qui se passe ?
Moi je viens bosser là, ça va, je vais faire la communication pour les campus sociaux, ça va quoi ?
Oh mais vous savez qu'on est une radio ici, bordel de merde ?
Eh, y'en a qui bossent la merde ! Ouais, bah le campus, on essaie de l'animer, nous, alors, ça va.
À ceux qui nous écoutent, excusez ces perturbations. Mais...
N'importe quoi. Bon, bah, n'importe quoi. On vient de vivre n'importe quoi.
Fasciste ! Eh ben, elle est belle, la jeunesse.
Non, mais c'est n'importe quoi, Pierre. Excusez-nous.
Mais en plus, c'est dommage, parce que je pense qu'il y a des synergies, il y a des choses à développer, parce que nous, on est là à l'écoute des étudiants, on essaie de développer le plus possible d'actions avec eux. Donc, s'ils ont des revendications, des propositions à nous faire, nous, on est toujours à leur écoute.
Enfin, à mon avis, s'ils ont accès...
On ne reviendra pas ! On reviendra pas !
La révolution à la fac ?
Un petit peu, ouais. Même plus que la révolution, c'est carrément la sécession. Donc on est parti sur cette thématique de sécession étudiante pour questionner ce que disait Thibaut, ce territoire du campus qui est assez particulier, tous les enjeux qui l'englobent, comment si on fait sécession, on s'auto-administre, comment qualifier ce territoire, quelles sont ses frontières. Donc là, effectivement, le lieu est assez emblématique. Et aussi, quelles sont les identités, si on a plusieurs, du monde étudiant, qu'on présente quand même comme un monde assez homogène. Et bien, en fait, on s'est aperçu, en organisant cette station-là, qu'on était quand même assez tous différents et qu'on pouvait bien parler d'identité au pluriel étudiante.
Après, ça va donner lieu aussi à la diffusion de la fiction radiophonique, parce qu'on a travaillé aussi avec les radios, qui ont également travaillé sur le thème qu'on avait mis en place, c'est-à-dire ces révolutions étudiantes. Voilà.
une fiction radio, travailler avec Radio Campus.
Voilà, tout à fait. Donc en fait, quand on a commencé, on voulait créer un comité pilote composé d'étudiants pour organiser cette station-là. Et on s'est dit que Radio Campus était quand même une radio étudiante, écoutée principalement par des étudiants et qu'on ne pouvait pas passer à côté. Donc on les a contactés, ils ont collaboré avec nous et je dois dire d'une manière exceptionnelle. Ils se sont énormément investis, ils étaient super enthousiastes par ce projet-là. Et en fait, ils ont travaillé en collaboration avec Radio Lado, qui est un atelier radio qui est en train de se monter à Sciences Po, et avec l'atelier d'impro du Bureau des Arts de Sciences Po. Et ils ont fait une fiction qui simule en fait cette révolution étudiante qu'on essaye de mener sur les deux jours. Plein de projets qu'ils ont menés d'une manière remarquable et qui en collaboration avec nous. Et je pense que c'est une des plus belles collaborations qu'on a fait sur ce chantier mobile-là.
On s'en souvient encore, je pense qu'on s'en souviendra encore longtemps.
Campus Bordeaux 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1.